séances de novembre et de décembre pour tirer un peu nos conclusions. Et je souhaite que dans ces séances, vous ayez plus largement la parole que vous avez pu l'avoir à cause des contraintes d'horaire dans les séances passées. Je ne sais pas très bien encore comment nous répartirons. Ça dépendra justement de ce que vous aurez à dire. Si vous souhaitez intervenir beaucoup, alors je crois qu'il faudra que je réduise mes exposés au minimum. Sinon, je pourrais les développer un peu en novembre et en décembre. Je compte début novembre vous présenter une sorte de résumé des conclusions auxquelles j'arrive, après toute l'étude que nous aurons faite. Si vous avez beaucoup à discuter, la discussion s'étendra aussi sur décembre. Sinon, je prévoirai un autre exposé de conclusion, mais cette fois de conclusion orientée davantage vers ce que nous pourrions faire dans l'Église. En application cette fois, non pas en conclusion de l'étude, mais en application davantage. De toute façon, donc, je crois que nous devons prévoir ces 3 heures encore pour achever notre cycle d'études sur ce sujet, jusqu'à Noël, mais pas plus loin. Et alors, le Conseil a accepté une offre très intéressante de Georges Moukari, que vous connaissez bien, et le groupe que nous avons eu, que nous reprendrons d'ailleurs, le groupe avec moi, que nous avons eu dans le passé et que nous reprendrons dans un avenir plus lointain, va céder la place, chaque dimanche d'Institut biblique, à un groupe sur l'islam, d'apprentissage des éléments fondamentaux de l'islam et en vue de l'évangélisation des musulmans, 5 ou 6 fois, de janvier à juin à peu près. Ce sera Georges Moukari qui conduira le travail de ce groupe. Alors bien sûr, tous ceux qui sont membres habituellement de ce groupe-ci pourront continuer dans le groupe Moukari. Si quelqu'un ne s'intéressait pas du tout à l'islam, il pourrait aller dans un autre groupe à ce moment-là, et d'autres vont peut-être se joindre qui s'intéresseront spécialement à l'islam, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc, avec moi jusqu'en décembre, avec Georges Moukari à partir de janvier, pour le reste de l'année scolaire sans doute. Voilà ce que j'avais à dire, je crois, pour vous annoncer le travail de cette année. Alors, nous en arrivons maintenant à l'étude du passage de la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, et des versets 8 à 15. Ce texte, sans doute, fait figure de difficultés suprêmes dans le débat que nous avons survolé et dans lequel nous sommes entrés aussi. D'une part, c'est le passage qui semble contenir les paroles les plus dures ou les plus lourdes dans le sens de la misogynie, toutes celles que l'apôtre Paul a pu rédiger, souvent en tout cas c'est pris comme ça. Je me rappelle avoir lu sous la plume d'un auteur féminin qui est une théologienne, qui essayait de commenter ce passage, cette formule, il semble qu'on ait devant lui une seule alternative, ou bien sacrifier le texte, ou bien sacrifier les femmes. D'une part, donc, c'est le passage qui semble le plus massif, dans un sens défavorable à la femme dans la création et le peuple de Dieu, et d'autre part, c'est un texte qui contient des paroles assez énigmatiques, surtout dans ces derniers versets. Il y a une irrégularité grammaticale que je vous signalerai en traduisant, et puis il y a surtout une façon de parler du salut qui est très étrange, qui n'a pas, je crois, de pareil dans tout le Nouveau Testament. Alors beaucoup d'auteurs se sont interrogés à ce propos. Je dirais quand même que sans trouver que le texte est vraiment facile à interpréter, j'ai moins d'hésitation sur son compte que je n'en ai encore sur 1 Corinthiens 14, le passage que nous avons étudié en dernier lieu. Je vous ai dit que sur 1 Corinthiens 14, je mettais un point d'interrogation même à l'égard de la solution que je préconise, car celle vers laquelle je tends le plus. Pour 1 Timothée 2, j'en ai une quand même à laquelle je suis assez attaché. Je vous le dirai, bien sûr, je vous dirai quelle elle est. Il me semble débrouiller quelque peu l'énigme. Le point le plus difficile pour moi, je le dis aussi d'emblée, c'est plutôt la manière d'appliquer aujourd'hui ce qui me paraît le sens suffisamment clair du texte de Paul. C'est la question de la transposition pour notre temps. C'est ça qui me paraît plus difficile pour ce texte, plutôt que le sens même dans leur contexte des paroles de l'apôtre. Je signale qu'il y a eu bien sûr pas mal de choses écrites sur ce sujet et sur le sujet global que nous avons étudié, et qu'il y a un livre qui mérite tout à fait recommandation, à mon avis. D'ailleurs, j'en fais une recommandation dans le dernier numéro d'Ictus, un livre qui est en vente au comptoir de librairie, intitulé « La femme dans l'Église », avec étude de divers passages qui nous concernent, publié par les éditions Je Sème, des assemblées ou églises évangéliques de frères en Suisse romande. Il s'agit d'exposés présentés à des rencontres spéciales de responsables de ces églises, et je trouve que c'est de vraiment bonne qualité. Les questions les plus délicates ne sont sans doute pas sondées jusqu'au fond, mais comme introduction d'ensemble au problème de la femme dans l'Église, je trouve que c'est vraiment excellent. Avec un style varié, des contributions féminines aussi, vous avez de l'exégèse, de l'application pratique, vous avez un peu de tout, c'est bon. Malheureusement, c'est très cher. Là, cela ira dans des caisses évangéliques, et peut-être que le comptoir de librairie même en profitera un peu, mais c'est pour un livre qui n'a que 87 pages, c'est 35 francs. Alors là, évidemment, j'ai trouvé que c'était un peu saumâtre quand je l'ai acheté, et bon, c'est le seul véritable inconvénient de ce livre. Mais autrement, il est fort intéressant. Si quelqu'un ne peut pas l'acheter, mais a quand même très envie de le lire, je peux lui prêter aussi celui que j'ai acheté. D'autre part, alors sur 1 Timothée 2 particulièrement, il y a quelques remarques intéressantes de Marc Lutti dans le livre que je viens de signaler, mais j'ai lu aussi un article très développé de 20 pages par un spécialiste du Nouveau Testament américain. C'est en anglais, mais c'est à mon avis l'un des articles les plus rigoureux que j'ai jamais lu sur le passage. 20 pages, c'est assez technique, mais bon, c'est super à mes yeux, bien que quant à la transposition, je trouve que l'auteur est un peu trop rigide, personnellement. Sur l'exégèse, proprement dit, d'un certain Douglas Lou, dans le Trinity Journal. Je signale. Alors, cette revue, là encore, je crois que vous auriez du mal à la faire venir. Vous pouvez toujours évidemment vous abonner ou lui demander un numéro à l'adresse que je peux vous laisser, mais je pense qu'il serait plus simple pour quelqu'un qui voudrait lire cet article assez technique et fouillé de me demander l'exemplaire que j'ai. Je pourrais le prêter aussi. Ce que je vais dire est assez largement d'accord avec cet article de Douglas Moo, mais j'en dirai bien moins, parce que c'est 20 pages d'un texte tassé avec beaucoup de notes et tout. Ça permet d'entrer dans le détail technique des choses. Lisons le texte pour commencer, et à la manière que j'affectionne, je vais vous donner une traduction extrêmement littérale, du mot à mot à partir de l'original, pour que vous vous rendiez compte exactement de ce qu'il y a dans le texte original de l'apôtre. Bon, nous commençons au verset 8, dans les versets 1 à 7, l'apôtre a donné des recommandations en ce qui concerne la prière pour les autorités, en indiquant quel est l'objectif visé dans cette prière, permettre aux autorités de maintenir une paix civile favorable à l'évangélisation. Alors à partir du verset 8, il dit « Je veux donc que les hommes prient », littéralement « prier les hommes », c'est une proposition infinitive comme il est fréquent en grec, je veux donc que prient, littéralement c'est un infinitif, « prier les hommes », Et là, le mot homme, ce n'est pas le mot qui désigne le genre humain, les êtres humains en général, mais c'est homme masculin. Vous savez qu'en français, nous ne pouvons pas distinguer, comme le font beaucoup d'autres langues, mais ce n'est pas Mensch, mais Mann. Si vous prenez l'allemand, dans d'autres langues, vous avez cette différence aussi. C'est donc une distinction selon le sexe, déjà, qui est impliquée par le terme utilisé ici. « Je veux donc, dit l'apôtre, que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, des mains saintes, plus littéralement encore, des mains pieuses, sans colère ni discussion. » Que ce serait le sens habituel du mot qui est employé ici. Allusion, bien sûr, au geste qui était habituel parmi les juifs de la prière, qui n'était pas le geste auquel nous sommes habitués, le geste de joindre les mains et de courber la tête, un geste de repliement vers l'intériorité, mais un geste symbolique d'élévation vers Dieu. Et vous savez que dans les milieux charismatiques aujourd'hui, assez souvent on voit les gens prier les mains levées, c'est tout à fait biblique, il n'y a pas de doute. Nous pouvons, pour des raisons d'habitude, être un petit peu gênés dans notre sensibilité propre par ce type de geste. Je crois qu'il ne doit être imposé à personne. Mais à coup sûr, nous n'avons aucune raison doctrinale à élever, aucune raison biblique contre. En fait, c'est le geste qui était courant dans la Bible. Et ce n'est peut-être pas sans intérêt. Bon, enfin, ce n'est pas notre sujet principal. Je veux donc que les hommes prient de cette façon. De même, les femmes, en accoutrement, en vêtements, disons, décents, qui convient, avec pudeur et sobriété, disons, se vêtir, mais ce n'est pas le mot qui veut simplement dire mettre un vêtement, mais qui pourrait aussi vouloir dire revêtir des ornements, se parer. On pourrait peut-être dire se pare. Mais, alors je veux que les femmes se parent, semble-t-il. En tout cas, c'est un infinitif, comme le verbe prier pour les hommes dans le verset précédent. Et grammaticalement, ou bien l'apôtre lance simplement un infinitif comme ça, c'est pas totalement impossible, mais ça paraît un peu douteux, ou bien c'est commandé par le même « je veux ». « Je veux prier les hommes, je veux les femmes se parer. » Se parer d'une manière décente, avec pudeur et sobriété. Je signale que le mot, c'est le mot dont nous avons fait « cosmétique » en français, c'est le verbe « cosmein ». Dans le mot cosmétique vient. Évidemment, le sens est un peu restreint, mais cosmétique. Mais vous voyez, c'est l'idée de parure qui est présente ici. Non pas avec des tresses et de l'or et des perles et un vêtement de très recherché, mais au contraire, ce qui convient à des femmes faisant profession, disons, annonçant, littéralement, annonçant piété, annonçant le service de Dieu, par des œuvres bonnes. L'idée semble être que les œuvres bonnes doivent être les parures à la place des choses compliquées, des bijoux précieux. Donc tout est commandé par ce verbe cosmein, se parer, dans ce verset. Donc, je veux que les hommes, de même que les femmes, se parent avec sobriété et se parent en quelque sorte de bonnes œuvres. La femme, il n'y a pas d'article, sans doute pour être pris dans une très grande généralité, on pourrait traduire une femme aussi, mais généralement, on traduit la femme. Que la femme reçoive instruction ou soit instruite, impératif passif, en tranquillité ou silence. Le mot hesukia, que l'on peut dire ici, peut signifier le silence, pur et simple, mais peut signifier aussi le simple calme. Il s'agit de ne pas avoir d'exubérance bruyante, de désordre. On peut donc traduire aussi tranquillement, avec calme, dans le calme, en toute subordination. Là, nous avons le nom qui correspond au verbe subordonner que nous avons rencontré ailleurs, qui est assez caractéristique des passages de Paul où il est question de la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il y a un petit mot qui parfois est un simple mot de liaison sans grande force, parfois indique quand même une petite opposition, mais. Peut-être devrait-on ici traduire « mais je ne permets pas à la femme d'enseigner » puisqu'il a dit qu'elle soit instruite ou qu'elle reçoive l'instruction. On pourrait concevoir qu'il dise « mais ». Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni. Et alors, là, vous avez un verbe qui n'apparaît qu'ici, dans le Nouveau Testament, qui est donc très rarement employé, qui a été employé après, mais qui était un peu courant en grec de toute façon, et qui donc a un sens qui est difficile à cerner très très exactement. Nous allons le traduire provisoirement, au moins, parce que c'est la traduction qui me paraît plausible, mais je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Prendre autorité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Là encore, il n'y a pas d'article. C'est le même mot « homme » masculin que nous avons au verset 8. C'est le mot aussi qui sert à dire « mari ». Dans le mariage. Comme on dit « mon homme » dans le parler populaire, et là encore, ce n'est pas populaire dans d'autres langues, c'est tout à fait normal. Mais je dirais pourquoi il me semble que ce n'est pas le sens à retenir ici. Donc je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, ou d'exercer l'autorité éventuellement, mais au contraire, d'être en tranquillité. De nouveau, le même mot que tout à l'heure. En tranquillité ou en silence. En effet, car Adam a été formé premier. Ensuite, Ève. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, est entrée en transgression. C'est pas le verbe entrer littéralement, c'est simplement être, devenir en transgression. En français, on est obligé d'employer un verbe comme entrer. Elle sera sauvée, cependant, là aussi, mais, le même mot que tout à l'heure pour indiquer une faible opposition, mais elle sera sauvée par le moyen, semble-t-il, d'IA, de l'enfantement d'enfants. L'enfantement. Alors, de nouveau, à propos de ce mot, et surtout de la préposition qui est utilisée devant, il y a une diversité d'interprétations dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais disons, le sens habituellement retenu, c'est par le moyen de l'enfantement. Si elle demeure, le verbe habituel demeurer, que Jésus a employé, demeurez en moi, etc. Si elle demeure, au pluriel. Si elle demeure, alors que le verbe précédent est au singulier. Si elle demeure, ou il demeure éventuellement, parce que le sujet n'est pas indiqué, c'est un pluriel donc, dans la foi et l'amour et la sanctification avec sobriété. Voilà ce passage que nous avons à interpréter. Donc, vous y reconnaissez les traits que j'ai évoqués tout à l'heure, la lourdeur de certaines affirmations, et aussi le caractère très énigmatique de la fin. Que signifie ce passage du singulier au pluriel que nous avons ici? Elle sera sauvée. Comment Paul peut-il dire qu'il sera sauvé par le moyen de l'enfantement, alors que partout ailleurs il nous présente un salut par la foi seule, sous les œuvres, etc. Vous voyez, c'est ça ce qui vraiment fait problème dans ce verset. Plus les mots qui sont peu fréquents, surtout le mot que j'ai traduit, prendre autorité. La première chose à décider, c'est le contexte de cette directive que donne l'apôtre Paul. Le contexte dans son esprit, pas le contexte dans le chapitre, puisqu'on l'a, on le voit bien, mais c'est lui quand même qui va nous permettre de décider ce qu'il y avait dans l'esprit de Paul. Mais dans l'esprit de Paul, certains se sont imaginés que Paul ici a en vue les rapports entre l'homme et sa femme, entre une femme et son mari, à l'intérieur du foyer. Considérant que l'on peut traduire le mot du verset 12 par mari, certains ont plaidé que ce que Paul ici voulait exclure, c'est un déséquilibre qui renverserait l'ordre de l'autorité dans le sein du foyer. C'est un ordre qui est lié à l'institution du mariage d'après Éphésiens 5, et que ça n'avait donc rapport qu'à ce face-à-face, des sortes de d'un homme et d'une femme dans le lien conjugal, que c'est dans cette situation particulière que l'apôtre Paul ne veut pas que la femme prenne autorité, qu'elle se fasse l'enseignante de son mari, et au contraire qu'il veut qu'elle reste subordonnée à son mari tranquillement. Il me semble que cette thèse est très peu plausible. D'abord, je crois qu'on doit dire que quand l'apôtre Paul ne précise pas le mot « homme » en indiquant que c'est son homme, il ne faut pas donner le sens « mari ». Dans les autres passages où le mot a le sens « mari » sous la plume de Paul, c'est tout à fait clair que ce n'est pas l'homme en général, mais le mari de cette femme. Et généralement, l'apôtre emploie un possessif, pour le dire, et même un possessif très appuyé. Il dit « son propre homme ». Pour dire son mari. C'est par exemple le cas dans Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos propres hommes. Pas, ou soyez subordonnées plus exactement. Il n'emploie même pas un simple possessif, là. Il appuie encore davantage. Alors, il me semble peu plausible que dans un passage où il ne le fait pas, il ait dans son esprit le sens de mari, plus précisément. Ça, c'est mon premier argument. Le deuxième argument, c'est que nous avons ici une situation qui convient bien plutôt aux réunions de l'Église. La question de l'enseignement, apparemment, c'est quand même plutôt dans un cadre non conjugal que l'enseignement se réalise. Lorsqu'il est question d'enseigner, je permets d'enseigner, je ne permets pas d'enseigner, recevoir instruction, on pense plutôt au ministère d'instruction dans l'Église. En deuxième lieu, il y a toute la question de cette tenue. Je remonte, vous voyez le texte, qui est enjointe là aux femmes. Il est peu probable qu'elle ait été tentée de tellement se mettre de bijoux, simplement pour l'intérieur de son foyer. Mais c'est pour paraître au dehors. Qu'elle pouvait être tentée de se parer d'une manière excessive. Ça suppose plutôt quelque chose de public. Et encore, c'est un deuxième argument. Troisième argument, la prière du verset 8 est sans doute aussi une prière publique. Prière à haute voix, les mains levées, et on fait remarquer que l'expression « en tout lieu » a sans doute une saveur juive, que les juifs appelaient les lieux où ils se réunissaient, justement « lieu » comme ça, disait dans le lieu, pour parler des lieux de la prière, ou des synagogues, ou des lieux convenus, comme on voit dans le livre des Actes. Donc, il me semble que, dans le texte lui-même, les indications pointent plutôt vers l'idée que c'est dans le culte, dans les réunions d'église, que tout cela se passe, et on peut ajouter que dans le contexte, il s'agit aussi de cela. Le chapitre qui suit concerne l'organisation de l'église. La manière dont Timothée doit savoir se comporter dans la maison de Dieu, dit-il. Pour que tout s'y passe avec ordre, dignité, décence, etc. Donc, J'exclus, pour ma part, en premier lieu, l'idée que nous soyons ici dans une simple situation conjugale, c'est plus général. Bien sûr, il y a des rapports entre situation conjugale et pensée de Dieu, globalement, pour l'homme et la femme, mais il pourrait y avoir des différences aussi, je crois qu'il y en a aussi. Ici, nous sommes dans une situation plutôt générale qui se réfère au culte chrétien. Est-ce que si l'apôtre dit au verset 8 « Je veux que les hommes prient », il exclut les femmes de la prière publique? La première question que nous rencontrons lorsque nous lisons ce verset. Je crois que ce serait tirer trop du texte que de conclure ainsi. Il ne dit pas qu'il interdit aux femmes de prier. Il dit « Plus tard, je ne permets pas aux femmes d'enseigner » ou à la femme d'enseigner, il ne dit pas de prier. Alors, nous ne pouvons pas lui faire dire plus qu'il ne dit. Il exprime là une intention, une recommandation particulière pour que les hommes le fassent. On peut très bien imaginer que, comme ça se produit dans beaucoup d'églises de nos jours, les hommes dans les églises de la région d'Éphèse, dont probablement Timothée avait la charge, n'étaient pas assez... sont prompts à saisir l'occasion de prière publique, disons qu'il y avait un certain relâchement de leur côté, ou une certaine timidité peut-être, ou je ne sais, et l'apôtre Paul a besoin d'insister, parce qu'il y avait une carence du côté masculin. On peut très bien l'imaginer. Comme dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul prévoit expressément, nous l'avons vu, que la femme puisse prier, là il demande simplement qu'elle ait ce signe sur la tête, d'une coiffure, d'un voile. Je crois qu'on ne peut pas tirer du verset 8 l'idée qu'il refuserait à la femme la possibilité de prier en public. Simplement, on remarque qu'il insiste pour que des hommes le fassent. Et ça peut très bien s'expliquer par le fait que les hommes étaient trop lents à le faire. La question de la tenue au verset 9 et 10, je crois, ne pose pas de problème d'interprétation particulier. Je crois que simplement il faut dire, mais je suis sûr qu'entre nous c'est déjà conclu, que ça ne veut pas dire que porter le moindre petit bijou sera réprouvé. C'est vraiment un tour d'esprit ultra-littéraliste, ultra-légaliste qui tire de telles conclusions. Des gens qui hésiteraient à se faire des tresses ou un chignon parce qu'il y a une question de tresses ici, ça me semble tout à fait en dehors de l'esprit de ce passage. Bien sûr, c'est une tendance que l'apôtre Paul réprouve, une tendance qui existe dans le cœur humain. Et lorsqu'il dit de se parer de bonnes œuvres, ça ne signifie pas qu'il faut aller en costume de bain avec les seules bonnes œuvres pour compléter. Il donne une... Il faut bien comprendre qu'il emploie un langage beaucoup plus souple en cette occurrence. Ça, je crois qu'entre nous, c'est clair. C'est pas ces versets 9 et 10, me semble-t-il, qui fassent problème. Les choses se corsent à partir des versets 11 et 12. La tranquillité, silence, nous l'avons déjà rencontré en 1 Corinthiens 14. La subordination est courante dans les passages où l'apôtre Paul parle des rapports entre l'homme et la femme. Donc ça ne nous surprend pas spécialement. Quand il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », alors là, c'est beaucoup plus précis. Alors, de quel enseignement s'agit-il? D'abord, cette permission. Est-ce que on pourrait dire que c'est une façon de parler de l'apôtre qui, quand il dit « je ne permets pas », qui réduirait la portée de l'interdiction. Certains ont essayé d'argumenter de cette façon. « Je ne permets pas », c'est moi qui ne permets pas, parce que je n'aime pas ça, parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu des abus, mais ce n'est pas un commandement du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ça? Il me semble que ce serait dangereux que d'autres fois l'apôtre Paul emploie les mots de « permettre » ou « commander », première personne du singulier, en tant qu'apôtre, avec l'autorité du Christ, et en particulier dans 1 Corinthiens 14, à la fin d'1 Corinthiens 14, et que par conséquent, essayer de réduire la portée en disant « c'est simplement un Paul personnellement qui ne permet pas », c'est pas être très, très droit à l'égard du texte, il me semble. Dans l'article de Lou, dont j'ai cité la référence tout à l'heure, cette idée-là me semble bien combattue, ne peut pas être admise. Mais alors, quel est l'enseignement qui est en cause ici? Là encore, Moule le démontre beaucoup plus largement que ce que je peux faire. il semble très probable qu'il s'agit de l'enseignement officiel dans l'Église. Si Paul parle ici d'enseignement, il a en vue la situation du culte, et il y a un office d'enseignement. Dieu a institué dans l'Église, premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, troisièmement les docteurs, les enseignants, dit en Corinthiens 12. C'est un office bien défini qui consiste non seulement en pédagogie, en art de faire comprendre des choses et en capacité d'information, mais aussi en définition de ce qui doit être cru. Vous savez, il y a dans les lettres de Paul à Timothée et à Tite, qu'on appelle les lettres pastorales, une insistance énorme sur la saine doctrine face aux faux docteurs, à ceux qui enseignent la fausseté. L'apôtre Paul se montre très très soucieux de la stricte définition des saines paroles, des paroles qui sont dignes d'être reçues avec une entière confiance, du modèle des saines paroles reçues de lui. Il s'agit de garder ce dépôt, de le confier à des gens sûrs, qui soient capables de le transmettre sans altération. Et il faut sans doute ici avoir bien à l'esprit cette fonction de définition et de transmission doctrinale très étroitement liée à l'autorité. C'est le docteur qui, dans l'Église, a la mission de dire voilà ce qu'il est permis de croire, si on veut être dans la vérité, et voilà la fausse doctrine qu'il faut dénoncer comme une invention simplement humaine ou même démoniaque. Il parle au chapitre 4 de doctrine de démon. Je crois qu'il faut bien comprendre ici qu'il s'agit de l'office de docteur. Alors, j'annonce tout de suite la difficulté quant à la transposition, quant à l'interprétation que nous pouvons donner pour aujourd'hui de cette parole. D'une part, ce type d'enseignement, nous n'y sommes plus tellement habitués peut-être, même dans les églises. Il y a d'autres formes d'enseignement qui se sont multipliées et qui étaient beaucoup moins communes au temps de l'apôtre Paul, une communication informative par exemple. L'enseignant met devant ses élèves, c'est même pas des élèves, souvent, dans ses auditeurs, un certain nombre de faits dont il a connaissance, leur enseigne quelques techniques de réflexion, ça n'a pas le même caractère. D'une part, il y a cette différence quant à la forme et même à l'essence de ce qu'est l'enseignement. Quand on compare entre ce temps de Paul et aujourd'hui, et puis d'autre part, alors il y a aussi ce qui était valable déjà du temps de Paul, à mon avis. Ça joue pour l'exégèse. Le problème de la frontière exacte entre prophétie et enseignement. Bon, il y a deux offices distincts, l'office de docteur et l'office de prophète. Dans l'Église, selon l'apôtre Paul lui-même, d'après les listes. Oui, mais on voit très bien dans 1 Corinthiens 14, par exemple, je n'ai pas le temps de le montrer maintenant, mais vous pourrez tout retrouver tout cela, que lui-même mêle un peu tout ça. Il est lui-même à la fois prophète et docteur. Il dit, si j'ai à vous avec une révélation, une prophétie, entre révélation et prophétie, qu'est-ce qu'il y a exactement comme différence, une doctrine, un enseignement doctrinal, il mélange un peu tout ça. Nous voyons, c'est une fausse prophétesse, mais des faux prophètes, c'est un Genève vrai. Vous voyez une fausse prophétesse dans les églises de l'Apocalypse au début, qui enseigne aux gens de faire ci ou ça, selon la voix de Balaam, cette Jézabel. Alors, vous voyez, les prophètes, ils enseignent aussi. S'ils disent, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut croire ci, il faut croire ça, ils enseignent aussi. Et je crois que c'est une erreur pour ma part de restreindre l'office de prophète dans le Nouveau Testament simplement à cette forme où il y a des oracles très précis. Vous voyez, il y a quelqu'un dans la salle qui a un problème, qui veut vendre un champ, qui n'y arrive pas, ou bien qui n'a pas pardonné à sa belle-mère, etc. Vous voyez, ça existe, je crois. Je crois que ça peut exister aujourd'hui encore. Je souhaiterais même que dans notre Église, cela puisse se manifester davantage. Mais je suis persuadé que ce n'est pas la seule forme de prophétie dans le Nouveau Testament. Et qu'un message puissant qui applique la parole de Dieu, comme le font souvent les prédicateurs de nos Églises, à la situation aujourd'hui, de telle sorte que les gens sont saisis, c'est de la prophétie au sens du Nouveau Testament. Et au sens de l'Ancien aussi. Un des arguments principaux, c'est que le sens du mot ne peut pas changer de manière radicale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les hommes du Nouveau Testament baignaient dans l'Ancien. Ils n'avaient même pas toute la Bible, ils avaient leur Bible, c'était l'Ancien Testament. Bien sûr, ils avaient les paroles de Jésus, l'enseignement des apôtres qu'ils avaient entendu de vive voix, deux ou trois lettres peut-être, mais leur Bible, c'était l'Ancien Testament. Et lorsqu'ils employaient le terme de prophète, ils ne pouvaient pas ne pas penser au modèle d'office prophétique que nous avons dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, nous voyons que les prophètes enseignent de façon systématique, de manière à transmettre un dépôt avec des disciples réunis autour d'eux, des disciples de l'Éternel qui sont aussi leurs disciples. Pensez à Ésaïe particulièrement, tout spécialement à Ésaïe 8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tracer la frontière exacte entre l'office prophétique et l'enseignement dans l'Église, c'est pas tout facile, bien une différence. Mais, comme Paul dans 1 Corinthiens 11 prévoit que les femmes prophétisent, vous voyez le problème d'application dont il dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Peut-être que ce qui va nous aider, c'est la suite qui dit je ne veux pas qu'elle prenne autorité, semble-t-il, sur l'homme. Alors le mot employé est très très rare, comme je vous l'ai dit. Alors certains, s'appuyant sur cette rareté, disent ça signifie usurper autorité. Paul veut dire, je veux bien que ça se passe dans l'ordre, qu'elle ait de l'autorité, mais pas qu'elle l'usurpe. Je crois que c'est une interprétation un peu tendancieuse. D'une part, les exemples d'usage après Paul, alors je suis d'accord, c'est après, donc ça a moins de poids que si on les avait trouvés du temps de Paul, mais les exemples d'usage après Paul n'impliquent pas cette connotation uniquement péjorative. Et puis, il y a d'autres arguments. D'abord l'argument que si c'était usurpé, si ça avait un sens mauvais d'emblée, ce verbe, alors ce ne serait pas seulement la femme, c'est aussi à l'homme que Paul ne permettrait pas d'usurper. Personne n'a le droit d'usurper. Il n'y aurait pas de raison pour que Paul le dise spécialement pour la femme dans ce verset. Puis la troisième raison, pour ne pas donner ce sens fort d'usurpation, c'est la structure de la phrase. Comme on l'a remarqué, il semble bien que Paul reprenne au verset 12 en inversant, si vous voulez, de façon symétrique, ce qu'il a dit au verset 11. Qu'elle soit instruite avec tranquillité et qu'elle soit subordonnée dans la subordination. Puis il renverse au verset 12, face à qu'elle soit instruite ou qu'elle reçoive instruction, qu'elle n'enseigne pas. Qu'elle soit instruite, mais pas qu'elle enseigne. Et face à, dans la subordination, il dit, pas de prise d'autorité. Voilà, me semble-t-il, ce que suggère ce texte. Mais il est quand même significatif que l'apôtre n'emploie pas le mot habituel pour autorité, parce que je vous dis que ce mot est employé seulement ici. Or, le mot autorité est fréquent, avoir autorité. C'est pas le mot commandé, c'est un mot qui suggère, dans la mesure où l'étymologie peut aider à saisir, cerner sa nuance, qui suggère l'initiative, l'autorité de quelqu'un qui impose son moi, et par lui-même, qui se met sur le devant de la scène et qui dit c'est comme ça. Le mot, ben je peux vous donner le mot grec, hein, certains ont fait du grec parmi vous, c'est le mot autentein. Qui vient, oui, on le sait, étymologiquement, du pronom personnel autos, lui. C'est quelqu'un qui décide par lui-même, et qui fait par lui-même, qui se met lui-même en avant, semble-t-il. Alors, c'est l'idée d'autorité, vous voyez, avec cette nuance-là. Il semble que l'apôtre Paul veuille exclure un renversement de cet ordre qui est évoqué par le mot de subordination. Suit alors la fondation biblique que l'apôtre veut donner à cette directive. Il remonte au récit de la Genèse, comme il l'a fait en 1 Corinthiens 11, vous vous rappelez, et comme probablement il le fait aussi en 1 Corinthiens 14, en disant la loi. On ne voit pas d'autre passage dans la loi que le début de la Genèse pour parler de ce sujet. Il revient à ce sujet. Mais il revient plus en détail que nulle part ailleurs ici. Adam a été créé le premier, ensuite Ève. La portée de ça, ça paraît assez clair. Il suggère donc que l'ordre, selon l'autorité, correspond, a été en quelque sorte reflété dans l'ordre de Genèse 2. Nous avons étudié Genèse 2, nous avons vu que ce n'est pas un argument méprisable que l'on puisse contester. Bien sûr, ce n'est pas l'ordre tout seul, abstraitement, mais c'est l'ordre dans le contexte de ce récit. La femme ayant été faite pour l'homme, étant définie par rapport à lui, l'alliance ayant été conclue avec lui d'abord, ça suggère une structure d'autorité. Voilà ce que Paul me semble vouloir dire dans ce premièrement, ou premier, ici au verset 13. Ben, ça paraît clair. Au verset 14, c'est un peu plus dur. Hein? Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, est entrée en transgression. Premier sens qui vient à l'esprit, que beaucoup de commentateurs, souvent indignés alors, ont cru lire, Paul, au fond, là, chargerait la femme de toute la culpabilité. Ce n'est pas l'homme, le pauvre, c'est la femme qui est entrée en transgression. Je crois qu'il faut exclure cette interprétation, non seulement parce qu'il me semble que dans le texte lui-même de la Genèse, ça, nous l'avons vu ensemble, ce n'est pas l'enseignement qui ressort, comme j'ai essayé de vous le montrer, mais aussi parce que Paul ailleurs rétablit bien les choses, ou l'équilibre en tout cas. Il dit en Romains 5:12, vous savez, en Romains 5:12, c'est par un homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, etc., etc. Et là, il ne parle absolument pas d'Ève dans tout son développement, alors qu'il parle surabondamment d'Adam. Et Romains 5:12 à 21, c'est un très grand passage. Là, il souligne trop fortement les choses. C'est l'exposé de son évangile, de sa doctrine fondamentale, pour qu'on puisse le soupçonner d'avoir exonéré Adam de la culpabilité et d'avoir tout placé sur les pauvres épaules d'Ève. Donc, ça ne peut pas être ça son sens. Alors, il reste deux sens possibles, me semble-t-il. Et j'avoue hésiter un petit peu. Avant, je tenais uniquement pour le troisième. Et puis maintenant, je dois dire que c'est une étude nouvelle que j'ai faite pour ce cours. Me fait quand même penser que la deuxième a de quoi aussi nous impressionner. Deuxième interprétation, donc, c'est que Paul a en vue la faiblesse, la vulnérabilité à la tentation, et à, on pourrait dire à la tentation doctrinale de la femme, et voit déjà cela dans le récit de la Genèse. Satan s'est attaqué au maillon le plus faible de la chaîne, comme le font tous les astucieux, et c'est la femme qui s'est montrée donc vulnérable à la séduction, à la tromperie satanique. Démonologie, mais forcément seulement les charismatiques qui s'intéressent. Nous croyons tous, hélas, à l'existence des démons, mais j'en ai entendu une fois qui disait la femme est plus vulnérable à l'influence démoniaque, elle est plus facilement attaquée par des esprits malins, et c'est là qu'elle a besoin d'une sorte de protection masculine. J'ai entendu la chose dite, je dois dire j'ai réagi tout de suite, comme je fais souvent quand j'entends ce genre de discours de nos frères un peu charismatiques, en disant où est la preuve biblique de l'affaire. En dehors de ce passage et de Genèse 2, 3, donc, qui est cité par Paul, je ne vois nulle part ailleurs de différence quant à la vulnérabilité aux démons, à l'action des démons.
Dans la réalité non plus.
Alors, dans la réalité, les charismatiques vous diront peut-être le contraire, qui pensent avoir une longue expérience de tout ça. Mais enfin, ça, je n'en sais rien en tout cas. Ah oui, ils diront le grand criminel, c'est un peu autre chose. Ils diront c'est pas forcément les démons. Là. Mais enfin, disons, moi, en tout cas, de mon poste d'observation, je n'ai pas non plus vu de grande différence en ce qui concerne l'expérience de ces dernières années quant à la à la vulnérabilité aux démons, sauf peut-être, mais encore, c'est très, je ne sais pas si la différence est si marquée, sauf peut-être que ceux qui voient des démons un peu partout, vous savez, des tendances un peu diverses parmi les chrétiens évangéliques qui croient aux démons, il y a peut-être une tendance à en trouver davantage chez les femmes, disons, je pense à notre église même, n'est-ce pas, ceux pour qui il y a eu des séances d'exorcisme privées, hein, dans les 10 dernières années, je pense, ont été plus souvent des sujets féminins. Enfin, je referme quand même cette parenthèse relative à l'expérience. Ce n'est pas l'expérience qui nous permet de formuler une doctrine. Ça, c'est bien être entendu entre nous. Or, dans la Bible, les gens qui sont possédés de démons, vous en avez de toutes sortes, à peu près, je crois vraiment, autant d'hommes que de femmes. Vraiment. Et les faux prophètes et les fausses prophétesses, il y a eu des deux sortes dans l'Ancien Testament, mais deux sortes, vraiment. Et dans le Nouveau Testament aussi, faux docteurs, faux prophètes. Il me semble difficile de dire qu'il y a, dans le tableau que nous présente l'Écriture, la suggestion d'une plus grande vulnérabilité féminine. Alors c'est la principale objection que j'aurais. En revanche, je dois dire qu'il y aurait quand même un point dans l'analyse, c'est tout à fait laïque, non biblique, scientifique, du livre d'Evelyne Sulro, que je vous ai cité au tout début de notre étude, il y aurait quand même un point qui pourrait se rapprocher de l'idée d'une vulnérabilité. Dans la mesure où la femme semble avoir, en règle générale, il y a des différences individuelles énormes, mais en règle générale, une plus grande dominance d'affectivité. Vous rappelez le passage que nous avions lu. Être davantage sensible sentimentalement et davantage intuitif aussi, davantage guidé par l'intuition. Je pense qu'on peut dire que cela implique une plus grande vulnérabilité sur les questions doctrinales. Une bien plus grande aptitude souvent aux soins pastoraux, à la capacité d'écouter les gens et d'écouter ce qu'il y a derrière leurs paroles, les plaintes, peut-être de leur inconscient même, à cause de cette intuition. Mais quand il s'agit de doctrine, je crois que c'est une autre procédure qu'il faut suivre, où souvent les raccourcis de l'intuition et la présence d'une vive affectivité peuvent troubler le jugement. Donc là, il y aurait peut-être un point d'accrochage dans l'analyse du tempérament féminin courant, disons, disons pour cet enseignement-là. Mais il y a une autre façon de comprendre, qui est la troisième, à laquelle donc je m'attachais davantage dans le passé, maintenant j'hésite un peu, je vous le confesse. On peut comprendre aussi que Paul n'a pas foncièrement l'idée de faiblesse féminine dans l'esprit, mais que c'est uniquement l'ordre qui le préoccupe. D'ailleurs, il peut y avoir les deux choses aussi dans son esprit, mais enfin, que c'est surtout l'ordre qui le préoccupe. Il remarque une chose qui est intéressante à remarquer. Quand c'est Dieu qui crée, qui établit les choses, c'est l'homme qui le crée d'abord et ensuite la femme. Dans la transgression, comment est-ce que ça se passe? Curieusement, l'ordre est inversé. C'est la femme d'abord, c'est elle qui a l'initiative dans le fait d'être séduite, d'être trompée par le serpent et dans l'entrée en transgression. C'est une suggestion dans le récit de la Genèse que l'ordre de Dieu, c'est bien l'ordre qu'on voit dans la création, puisque l'adversaire tout de suite s'y attaque, puisque tout de suite il le renverse. Voilà ce qui pourrait aussi être dans la pensée de Paul. Ça cadrerait très bien aussi avec ce qui précède, avec l'idée de subordination et d'autorité, de ne pas prendre l'initiative autoritairement, si vous voulez, en se mettant sur le devant de la scène, qui est dans les versets qui précèdent. On peut, me semble-t-il, lire cette pensée dans l'esprit de l'apôtre Paul. La seule objection que je verrais, il faut que je la dise très franchement, hein, c'est que ce serait clair, beaucoup plus clair, si Paul avait dit c'est la femme qui a été séduite d'abord, s'il avait mis d'abord. Comme il a mis, c'est l'homme qui a été créé d'abord,
S'il avait mis aussi pour séduite d'abord, alors ça aurait été le sens évident. Comme il ne l'a pas mis, c'est le sens possible, mais je ne suis pas absolument certain. Voilà ce que je crois ici pour cette deuxième partie de sa démonstration biblique. Et on arrive au verset 15. Verset 15. Elle sera sauvée par le moyen de l'enfantement si il ou elle, pluriel, persévère, demeure dans la foi, l'amour, la sanctification avec sobriété. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Alors, il y a eu des idées les plus bizarres qui ont circulé. Certains ont vu, par exemple, une promesse de salut physique lors de l'accouchement pour les femmes qui sont fidèles dans la foi. Elles seront sauvées dans leur maternité si elles sont des femmes pieuses et tout. À ça, me semble-t-il, s'opposent deux choses. D'abord, le mot enfantement, technogonia ici, qui formait du radical techno, qui veut dire enfant, et puis gonia, engendrement, n'évoque pas les douleurs de l'enfantement, n'évoque pas le moment où on enfante. C'est plus abstraitement l'idée d'avoir des enfants. Bon. Ensuite, le mot salut, sous la plume de Paul, ne désigne, semble-t-il, pas ailleurs, simple salut physique. D'ailleurs, d'accord, dans le grec du temps, ça pouvait désigner simplement le fait de ne pas mourir de maladie. Mais chez Paul, habituellement, ça a un sens beaucoup plus fort. Et d'autre part, on ne voit pas comment cette promesse serait soutenue. Il y a eu des femmes très pieuses qui sont mortes en couche, etc. Donc, ça ne me paraît pas. Puis, pourquoi dirait-il les choses comme ça à cet endroit-là? Si on regarde que la première partie du verset, ça, beaucoup de gens sont d'accord, il y a une idée qui vient tout de suite à l'esprit, ben, c'est Genèse 3, 15. Ça a l'air très bien collé. Paul a parlé de Genèse 2, Adam créé d'abord, de Genèse 3, première partie, dans le péché, c'est la femme qui a été première, et puis il atteint Genèse 3, 15, qui est la promesse de victoire sur le serpent, de deuxième manche, victorieuse pour le Seigneur, vous voyez, victorieuse pour Dieu sur l'adversaire, et dans cette deuxième manche, où la tête du serpent sera écrasée, qui est donc l'annonce du salut dans Genèse 3. Quelle est la place de la femme? Eh bien, la femme a là le rôle maternel. C'est le lignage descendant de la femme qui écrasera la tête du serpent. Promet Genèse 3, 15, le verset qu'on appelle le protévangile, l'évangile avant l'évangile. Ah, il me semble que ça colle très bien si on voit ça. Vous voyez, la femme qui voulait s'émanciper au temps de Paul, peut-être dans certains courants sectaires qui agitaient les églises, on voit après ça, au chapitre 4, que les faux docteurs séduisent particulièrement les femmes et interdisent de se marier. Ils étaient sans doute des adversaires de la procréation, des adversaires du rôle maternel. On a retrouvé d'ailleurs dans un écrit gnostique, c'est attribué à Jésus, mais Jésus bien sûr n'a jamais dit ça, un écrit un gnostique plus tardif, une formule, je ne me rappelle plus maintenant l'exacte formulation, mais une formule qui dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, toute femme doit devenir homme. L'idée d'une désexualisation, parce que le sexe c'est matériel, c'est la terre, tout ça c'est le mal, il faut se désexualiser pour accéder au royaume de Dieu. C'est une idée gnostique, une idée de ces faux docteurs contre lesquels Paul combat dans ses lettres. Et Paul a en vue des femmes, peut-être, qui se laissaient gagner par ça. Ils ne voulaient plus être femmes, plus admettre un rôle spécifique dans le plan de Dieu, et un statut spécifique dans le plan de Dieu. Alors il dit, regardez, dans la rédemption, telle que Genèse 3 nous l'annonce, où est la femme? Que fait la femme? Elle est mère. C'est en donnant le jour aux descendants sauveur, qu'elle figure dans la promesse de la rédemption. Ouais, ça me satisfait tout à fait. Je trouve que c'est vraiment ici ce qui disons, permet à la pensée de Paul d'avoir sa logique interne. Et alors, certains objectent, mais alors pourquoi, comme dit-il, si elle demeure, si elle persévère dans la dans la foi, l'amour, la sanctification. Certains s'imaginent, et même l'article de Douglas Moo, que alors là, il faut abandonner l'idée de la femme de Genèse 3 et revenir simplement à l'idée des femmes aujourd'hui. Mais je dis, quant à moi, mais oui, ce sont les femmes d'aujourd'hui que Paul a en vue dans la deuxième partie du verset. Mais ça n'empêche pas qu'il ait eu en vue la femme dont naîtra le Messie. Selon Genèse 3.15, la féminité, si vous voulez, avec son rôle maternel dans la promesse de Genèse 3.15. Il fait l'application, le passage du singulier, elle sera sauvée, au pluriel, si elle demeure, montre que Paul tire, pour toutes les femmes, un enseignement de ce qui est dit de la femme au singulier, dans Genèse 3.15. Dans Genèse 3.15, avec le singulier, donc il met d'abord le singulier. Et puis, appuyé sur cet enseignement de Genèse 3.15, dans la rédemption, le rôle maternel n'est pas révoqué. Dieu ne remit pas l'ordre qu'il a mis dans la création. Une fois appuyé là-dessus, alors il dit, eh bien maintenant, donc les femmes doivent suivre cette voie. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être mère pour être sauvée. Bien sûr, si on passe à l'application à toutes les femmes, il faut tout de suite ajouter que le salut ne peut être vraiment reçu que dans la foi. Une foi qui n'est jamais, s'il est authentique, sans amour et sans sanctification. Nous avons, me semble-t-il, l'enseignement courant de l'apôtre. Il dit qu'elle sera sauvée en devenant mère par le fait d'avoir des enfants. Ça, c'est Genèse 3.15. La femme a sa place toujours dans le plan de Dieu, même au stade de la rédemption. Mais tout de suite, pour qu'on ne s'y méprenne pas, pour qu'on ne croie pas que dans l'application aux femmes d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il suffit d'avoir des enfants pour être sauvées, il dit, oui, bien sûr, il s'agit pour elles aussi de persévérer dans la foi, la sanctification. Il me semble que ça colle très bien, que on peut très bien avoir à la fois la référence à Genèse 3 et cette application ensuite. C'est le sens qui me satisfait ici. Vraiment, je crois que là, je comprends Paul quand je lis comme je viens de vous dire. Alors, la grande difficulté qui subsiste, c'est celle de l'application transposition. À coup sûr, l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que ça veut dire que, pour nous aujourd'hui, il sera exclu dans tous les cas, toujours, qu'une femme ait le rôle d'enseignement officiel dans l'Église, qui correspond quand même en gros au rôle pastoral. Est-ce que ça veut dire un rôle pastoral exclu? Moi, je n'arrive pas à en être persuadé. Je connais bien des gens, par exemple tous les professeurs de la faculté d'Aix-en-Provence, ils ont fait un texte qui conclut comme ça, ils se sentent obligés de conclure comme ça. Moi, j'arrive pas, j'espère que ce n'est pas par influence du milieu ambiant, mais j'arrive pas parce que j'ai l'impression que ça ne cadre pas parfaitement avec ce qu'on trouve ailleurs dans l'Écriture. Avec la place donnée aux femmes, ailleurs, dans le ministère de Paul, et dans l'Ancien Testament, avec ces prophétesses qui ont eu beaucoup d'autorité, que ça ne colle pas tout à fait non plus avec la distinction prophétie-enseignement. Ce qui veut dire que je me dirige vers l'idée, non pas que Paul ici a donné un enseignement purement circonstanciel. Certains ont essayé de dire c'est parce que localement, ça n'aurait pas marché, qu'il dit je ne permets pas. Cette idée-là est concevable, mais alors on ne voit pas pourquoi il s'appuierait tellement sur la Genèse, pour le dire, si c'était seulement local. C'est pas ça qui est mon idée, en l'occurrence. Il me semble que je peux introduire l'idée de règles ordinaires que Dieu est capable de suspendre quand il le veut, comme il le veut. Je crois que ce qui est ici en cause, la répartition des fonctions entre l'homme et la femme, que ce qui est ici en cause, ce n'est pas un principe moral absolu reflétant la nature même de Dieu. Là, Dieu ne peut jamais faire d'exception. Il est toujours juste, il ne peut pas être injuste. Il ne peut pas permettre l'injustice. Mais c'est une règle, une sorte de structure, j'aime bien le mot structure, pour ordonner... C'est une... C'est suffisamment clair. Ah, je crois qu'on peut très bien dire, bon, Dieu fait une exception. Pourquoi n'aurait-il pas le droit d'en faire? Il me semble que le fait que Paul pose une règle générale ne signifie pas qu'elle sera sans exception aucune. Alors, je vous laisse méditer, puisque l'heure est atteinte, sur cette possibilité-là, madame.
Est-ce que dans la société juive, enfin, avec le temps de Paul, est-ce que les femmes avaient accès aux mêmes enseignements que les hommes?
Non, certainement pas.
Parce que ça peut jouer aussi. Actuellement, les femmes reçoivent, après avoir l'enfance ou n'importe où, le même enseignement, le même bagage culturel. Enfin, c'était pas vrai à ce moment-là. Il se peut qu'il ait interdit aux femmes d'enseigner, justement, parce qu'elles manquaient d'une base solide.
Oui, c'est une idée qui a.
Oui,
c'est une idée qui a souvent été avancée. Et je pense qu'elle n'est pas sans valeur, mais on a fait remarquer quand même deux choses contre elle. D'une part, que Paul, là, contrairement aux usages juifs, veut que la femme soit enseignée. Oui. Ça, il se met, si vous voulez, en opposition avec les habitudes des rabbins. Et puis la deuxième chose. C'est qu'il se réfère à la Genèse, vous voyez, avec ce grand thème de l'ordonnance des choses en Genèse 2 et 3, et que donc, cette idée que localement, dans cette période de l'histoire, les femmes n'avaient pas reçu le bagage voulu pour enseigner, c'est quand même un peu décroché.
Madame.
Mais oui. Alors, je pense que c'est l'enseignement dans les réunions communes de l'Église, donc il s'agit d'enseignement des adultes plus généralement. Ce n'est pas précisé. L'enseignement pour les jeunes, il n'est pas question spécialement dans le Nouveau Testament.
Oui, mais
pas du tout.
Certainement, à l'époque, il n'y avait pas de. Enfin, tout le monde est enseigné en même temps. Mais est-ce que
oui,
ce n'est pas grave que ce soit.
Alors, quoi qu'il il aurait pu quand même y avoir une distinction. Alors, la seule donnée que nous ayons, mais qui est intéressante, c'est que Paul dit aux femmes plus âgées d'enseigner les jeunes dans l'Épître à Tite. Ça, il précise que là, il leur donne une fonction d'enseignement. Donc, en tout cas. On voit que ce n'est pas tout enseignement, toute sorte d'enseignement qu'il exclut.
Ça peut être très grave que les femmes
aient des épouses d'entrée dans les plus jeunes. Bien sûr, à coup sûr. Mais alors là, c'est déjà les questions d'application, n'est-ce pas, que je n'ai pu toucher très brièvement il y a quelques instants, mais que j'espère reprendre dans les exposés de conclusion. Il y a aussi quand même un thème intéressant, monsieur. John Winston aime beaucoup le mettre en avant, peut-être, à mon avis, parfois un peu trop, mais disons, il est quand même intéressant. C'est aussi le thème de la délégation d'autorité, du fait de pouvoir exercer une activité sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Lui serait assez prêt à dire qu'une femme enseigne, sous l'autorité du conseil, dont les membres sont au moins majorité masculin, etc. Vous voyez, il aurait souvent cette solution, lui, comme solution proche. C'est pas sans valeur, je crois que. Si on comprend qu'enseigner avec autorité, c'est tout spécialement définir la doctrine, on dira que beaucoup de ce que nous appelons enseignement aujourd'hui, dans l'Église même, n'est pas une définition de la doctrine. Cette doctrine n'est pas enseignée avec une autorité de statut par, disons, la monitrice d'école du dimanche, par exemple. Mais ça, il faudrait y revenir, à mon avis. C'est une des questions qui. Font la complexité de l'application aujourd'hui. Alors surtout, préparez vos interventions, parce qu'il y aura du temps, les prochaines fois, pour la discussion, pour l'entretien, justement. Vous voyez, deux séances, ça devrait vraiment suffire.
Oui, alors j'ai lu peut-être un livre, je ne sais pas si vous en avez parlé, le livre du docteur Tourny, sur la mission de la femme, je pense que ça peut intéresser.
Je ne l'ai pas lu, non. Alors, je pense que c'est peut-être très intéressant. Vous.
Alors, peut-être que sur la femme par rapport à l'enfant, je pense que ça intéresse la minute d'Elisabeth Badinter,
et
même en plus,
ça peut apporter. Oui, là, je dois dire que. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu une recension détaillée dans Science et Vie, qui me semble devoir nuire beaucoup au crédit de ce livre, hein, j'ai l'impression.
Oui.
Oui, non, mais.
Ah,
oui. Merci, merci de nous donner ces indications. Donc, en principe, la prochaine fois, c'est le 12 novembre. Peut-être se joindront, peut-être les autres, les membres du deuxième groupe se joindront-ils à nous, parce que mon père ne sera pas rentré de Côte d'Ivoire. Ça, enfin, vous aurez la priorité, vous êtes régulier du groupe dans l'intervention. J'espère qu'il n'y aura pas trop, qu'ils n'ont pas suivi la série des écrits, que vous serez vraiment là avec les données en main. Et c'est